Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h47, vous écoutez Fréquence Protestante au 100.7 FM. Je suis ravie de vous retrouver depuis mon home studio pour un nouveau 16 Discute, l'émission mensuelle des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Comme pour la dernière émission, confinement oblige, nous avons préenregistré cette émission via une plateforme de téléconférence. Avec Jeanne et Catherine, nous sommes allées à la rencontre des femmes qui gravitent autour du projet des Astrales. Mais vous allez me demander ce que sont les Astrales. En fait, à l'occasion du centenaire de la Fédération Française des Éclaireuses, la FFE, créée en 1921, un collectif a entrepris de mettre en lumière les femmes passées par le scoutisme. Leur objectif, retracer le parcours de 100 femmes remarquables. Maud Réveillé, à l'origine du projet, sera avec nous pour nous expliquer en quoi il consiste et dans un second temps, nous irons à la rencontre de femmes inspirantes de notre époque, passées par le scoutisme. Ça se discute et les astrales, c'est parti. Dans le collectif derrière le projet des astrales, on retrouve entre autres Laure Salamon, Denise Welling et Maud Réveillé. Maud est bénévole aux EEDF, les éclaireurs et éclaireuses de France, depuis 8 ans, impliquée sur différentes missions, notamment sur le groupe Genre et Sexualité, un peu l'équivalent de notre comics. Maud, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le projet des Astrales ?
Oui, bah bonjour déjà. Le projet des Astrales, il est né... Alors, je peux le raconter avec un peu une anecdote. À un moment donné, je me suis retrouvée à essayer de regarder qui étaient les scouts célèbres, entre guillemets, qu'on mettait en avant, notamment sur Internet. Et en fait, quand on parle des scouts célèbres, en fait, on parle des hommes scouts célèbres. Donc, par exemple, on avait fait un petit recensement. Si on regarde sur la toile scout, dans la rubrique scouts célèbres, eh ben, il y a 27 hommes et 4 femmes. Et dans d'autres sites, par exemple Scoutopédia, on est sur 24 femmes et 347 hommes. Sur Wikipédia, on est sur 10 femmes, 91 hommes. Et donc tout ça, en fait, ce recensement-là, ça se traduit aussi dans ce que les médias vont mettre en avant quand ils parlent des scouts ou du scoutisme, ce que nous, nos récits en interne et notre imaginaire, en fait, va traduire.
Et pourquoi ce nom, les astrales, ça vient d'où ?
On est tombé sur le concept des lampes astrales, qui sont des lampes qui sont conçues d'une manière à ne pas projeter d'ombre. On voulait profiter de l'occasion du centenaire pour mettre en avant des femmes remarquables, mais notre démarche, c'était pas que ces femmes remarquables... Que ce soit des exemples qui nous écrasent ou des stars. Hein. C'était pas ça notre idée. C'était plutôt que ce soit des guides, des choses qui nous inspirent et qu'on relie à notre vie quotidienne et à nos propres engagements. Et donc, cette idée d'une lampe qui éclaire mais qui ne projette pas d'ombre, ça nous a séduit et donc on a retenu ce nom des astres.
Alors justement, on en parlait en préparant l'émission. Tu disais qu'il y avait pu avoir un peu une méprise sur ce projet de mettre en lumière des femmes de manière individuelle, comme si ça pouvait porter défaut au collectif. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors effectivement, dans les premiers retours un peu négatifs qu'on a eus, il y avait cette idée que la Fédération Française des Éclaireuses, c'était une histoire collective et vous voulez mettre en avant des individus, c'est pas très cohérent avec ce qu'est le scoutisme, etc. Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il faut quand même se dire que c'est quelque chose qu'on n'entend que quand il s'agit des femmes, hein, parce que mettre en avant des grandes figures masculines dans le scoutisme, on sait très bien faire, et moi, dans mon association les éclaireuses et éclaireurs de France, il y en a plusieurs des grandes figures, on en parle, on donne leur nom à des groupes, etc. Nous, on pense que l'histoire, ça s'incarne, que quand on parle d'une femme, on parle aussi des autres femmes autour d'elle, on parle de la place des femmes dans leur époque, et je crois qu'aussi, des fois, certaines personnes émergent et on les retient ou on ne les retient pas, parce que leur parcours, il est emblématique de quelque chose et que s'intéresser à leur nom et à leur histoire, c'est une manière de faire vivre une histoire et c'est pas que de les glorifier, en fait.
Et alors justement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner un exemple de femme qui, toi, t'a inspirée depuis que tu t'es intéressée à sa vie ?
Je peux vous parler d'Hélène Vianney. Hélène Vianney, c'est un peu celle qui nous a mis le pied à l'étrier, en tout cas moi, qui m'a fait le déclic de dire il faut absolument qu'on parle de ces femmes. Donc c'est une femme qui est passée par les éclaireuses neutres, donc les ancêtres des éclaireuses éclaireurs de France aujourd'hui. Elle a pas été cheftaine, elle a été éclaireuse pendant quelques années. à Paris. Et puis, assez vite, au moment de la guerre, elle commence à faire des actes de résistance individuelle et puis elle rencontre la personne qui allait devenir son époux, Philippe Vianney, et ensemble, ils décident de monter Défense de la France, qui sera le plus gros journal clandestin de la résistance, dans les caves de la Sorbonne, parce qu'elle est pompier volontaire à la Sorbonne et donc elle a les clés. Et donc, ils commencent à monter cet énorme journal clandestin qui deviendra aussi un réseau de résistance et qui sera aussi un des plus gros fournisseurs de faux papiers pour les personnes juives et pour les réfractaires au travail obligatoire pendant la guerre. Et donc, ils ont toutes ces aventures pendant la guerre qui leur coûtent beaucoup. Et puis, après la guerre, ils se rendent compte que c'est très dur pour les personnes résistantes et les personnes déportées de reprendre une vie normale. Alors, ils leur organisent on pourrait dire un camp scout, puisque les deux étaient scouts ou éclaireuses, dans l'archipel de Glénan, au sud de la Bretagne. Ils organisent un camp de vacances, en fait, pour que les déportés et les résistants puissent progressivement revenir à une vie normale. Et sauf qu'en fait, en faisant ça, ils se rendent compte que vivre sur une île, bah, il va falloir apprendre à faire du bateau. Et donc, ils commencent à apprendre à faire du bateau et à s'apprendre mutuellement à faire du bateau. Et c'est comme ça qu'ils ont fondé l'école de voile des Glénans, qui est la première école de voile en Europe. Et moi, ce qui m'a marqué dans le parcours d'Hélène Vianney, c'est qu'en fait, même elle, quand elle parle de son parcours, elle met toujours en avant son mari, alors qu'en fait, celle qui fait les choses, celle qui organise le réseau de distribution du journal clandestin, c'est elle, celle qui, en fait, dirige l'association une fois que l'idée est née, l'association des Glénans, c'est elle qui fait que cette association, en 15 ans, elle passe de 0 à 50 000 adhérents, et pourtant, elle n'est pas connue. Elle-même, elle parle beaucoup de son mari, elle le met beaucoup en avant. Il n'y a pas de rue à son nom, alors qu'il y a des places Philippe Vianney partout. C'est un parcours qui est, à la fois, c'est une femme qui est hyper inspirante par ses engagements, qui est très touchante par les difficultés aussi dans son couple et dans sa vie de famille qu'elle n'a pas voulu mettre en avant pour, un peu par admiration pour leur œuvre commune. Et puis, un sentiment aussi d'injustice, en fait. Pourquoi est-ce que cette femme-là, elle n'est pas connue? Pourquoi est-ce que quand on parle des Glénans, on parle que de Philippe Vianney? Alors qu'en fait, celle qui a façonné cette association, bah, c'est Hélène Vianney et c'est pas Philippe Vianney. Voilà, donc c'était un peu. C'est une femme, moi, qui m'a beaucoup touchée et qui a été un peu un élément déclencheur dans l'envie de se dire c'est pas possible, il faut qu'on en parle de ces femmes.
Super. Merci pour cette passion dans ta voix. Ça me fait venir aussi à peut-être la dernière question, mais même s'il y en aurait un milliard de plus sur ce sujet, c'est qu'est-ce que leur a permis le scoutisme de ce que tu as pu voir?
Moi, j'ai l'impression que quelque chose qui est très fort dans l'histoire de la Fédération des éclaireuses et plus largement dans les femmes qui ont fait du scoutisme, parce qu'on s'intéresse aussi à des cheftaines d'éclaireurs, par exemple, ou des guides de France. C'est la question à la fois du réseau entre elles, des liens entre elles, et aussi de l'amitié entre femmes. C'est quelque chose qui est très fort, l'amitié entre femmes à la Fédération française des éclaireuses. Et on le voit alors dans le parcours d'Hélène Vianney dont je viens de parler, quand il monte le journal clandestin, la première chose qu'elle fait pour monter un réseau de diffusion, c'est qu'elle appelle ses anciennes camarades éclaireuses. Quand on pense à Denise Vernet, par exemple, qui était la sœur de Simone Veil, qui était une résistante, en fait, elle rentre dans la résistance par les éclaireuses, elle est cachée à plusieurs reprises par des éclaireuses. Quand elle est déportée à Ravensbrück, eh ben, elle retrouve des scouts et des éclaireuses, et c'est ça qui l'aide à tenir aussi. Et la question du lien entre ces femmes, on le retrouve partout. Donc vraiment, cette question de l'amitié loyale, en fait, entre les femmes, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'elles ont pris et qu'elles ont fait grandir depuis leur expérience d'éclaireuse.
On pourrait appeler ça de la sororité, finalement.
Alors, elles avaient un nom pour ça, elles appelaient ça la sestralité, parce que sororité n'existait pas vraiment, donc elles avaient leur mot à elles qui s'appelait la sestralité à la Fédération française des éclaireuses.
D'accord, super. Merci beaucoup, Maud, pour ce superbe projet qu'on peut déjà retrouver sur le site astral@. Nous aussi, avec Catherine et Jeanne, on a mené notre enquête et on est allé à la rencontre de femmes bien vivantes et inspirantes qui sont d'anciennes éclaireuses, entre autres Aude Bernheim, Sophie Sakimora, Adrienne Charmé, Zoé De Soir et Léonore Monconduit.
Adrienne Charmé, vous êtes l'une des femmes que nous voulions entendre dans cette émission. Dans votre parcours, il y a Wikimedia, l'association Quadrature du Net, puis des institutions publiques dans le domaine de la sécurité numérique. Votre parcours comporte de multiples facettes, mais il y a des constantes: partage des connaissances, protection des citoyens, défense des libertés du numérique. Bonjour Adrienne.
Bonjour.
Et place à votre témoignage d'une femme inspirante.
Alors, j'ai commencé le scoutisme assez jeune, à 10 ans, plus tard que ce que j'aurais aimé, parce que j'ai grandi dans un tout petit village en Bourgogne où il n'y avait pas de scoutisme. Mon frère aîné allait chez les scouts dans ce qu'on appelle une patrouille libre chez les scouts d'Europe, c'est-à-dire des groupes complètement autonomes, souvent ruraux, là où il n'y a pas suffisamment de gens pour faire des groupes scouts. Et j'étais très envieuse de mon frère qui pouvait faire du scoutisme alors que moi je ne pouvais pas puisqu'il n'y avait rien pour les filles. Ensuite on a déménagé dans une ville beaucoup plus grande à Rennes où on a pu, je viens d'une famille assez nombreuse, on a pu tous les uns et les autres faire du scoutisme, pas forcément tous dans les mêmes mouvements, les filles plutôt chez les scouts d'Europe, les garçons plutôt chez les scouts unitaires de France. Avec des parents qui n'avaient jamais été scouts, mais qui avaient toujours eu une très bonne image des mouvements scouts.
Vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le rôle du scoutisme dans votre parcours ?
Je pense que ça a une influence sur plusieurs points. Il y a des points très personnels. Par exemple, j'ai un très grand amour de la nature. Je suis très bien en forêt. Je fais beaucoup de randonnées solitaires. Donc ça, c'est un point très personnel. Je suis bien dans la nature, bien dans les bois. J'ai pas peur. Je sais faire du feu, me débrouiller, marcher seule. Aucun problème avec ça. Et puis, sur un plan plus de construction de la personnalité, je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise dans mes années de scoutisme, c'est la prise de responsabilité, que chacun à sa place, avec ses moyens, à son âge, avec ses capacités, etc., est capable de prendre une partie de la vie de la société, qu'elle soit une petite société ou une plus grande société, et qu'il ne faut pas avoir peur de le faire, et que chacun a un talent ou plusieurs talents à faire fructifier, qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 ans et Félena pour prendre des responsabilités. Et ça, je suis sûre que ça m'a énormément influencée pour oser faire des choses.
Votre parcours dans le numérique, c'est aussi un parcours de femme dans un univers très masculin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place effectivement d'une femme dans ce type d'univers ?
Alors, c'est un univers effectivement très masculin. Ça fait, je pense, une dizaine d'années que je travaille dans le numérique dans plusieurs facettes, avec une proportion qui peut être assez souvent de 90% d'hommes et 10% de femmes à peu près. De manière assez constante. C'est un milieu qui ne dit pas que c'est pas fait pour les femmes, c'est juste qu'il y a pas de femmes en fait, ou très peu, et elles commencent à venir. Mais pour les gens de ma génération, donc une quarantaine d'années, on est quasiment toutes, je vais pas dire des pionnières parce qu'il faut pas exagérer, mais en tout cas, on a toutes fait notre place de manière un petit peu en s'imposant. Personnellement, moi j'ai fait l'expérience de notamment au sein des contributeurs de Wikipédia d'une époque où en fait il y avait un mélange de volonté de mettre en avant des femmes et en même temps, parfois pour des mauvaises raisons, disant il faut qu'on ait des femmes sinon on va se faire attraper. Et donc c'était un peu particulier d'arriver à faire sa place. À la fois en ayant conscience que c'était important d'y aller en tant que femme, sans être une potiche, sans être là pour être une femme. Et je pense que parfois, c'est un milieu où effectivement, il faut faire attention à ne pas être un trophée, à ne pas non plus laisser croire que c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'est. Je pense que ça n'est pas si difficile que ça d'être une femme dans ce genre de milieu. Et que si on héroïse trop les femmes, ça peut intimider au contraire celles qui se sentiraient peut-être pas à la hauteur pour la plupart des jeunes femmes.
Est-ce qu'il faut effectivement être dans une forme de soutien des femmes les unes avec les autres ?
Oui, enfin, une des choses principales que j'ai apprises dans les dernières années qui viennent de se passer pour moi, c'est ce qu'on appelle la sororité. De se dire, en fait, je vais consacrer mon énergie, non pas à me comparer systématiquement aux hommes, mais à encourager les autres femmes à prendre leur vie en main et à s'affirmer, et ne pas être en compétition finalement entre femmes en face des hommes. Et dans la vie professionnelle où je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de gens plus jeunes que moi, je travaille dans une institution où il y a beaucoup de gens très jeunes, beaucoup de jeunes femmes qui sont en début de carrière, j'essaye de faire attention à être comme une grande sœur ou comme une amie qui va les valoriser. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on atteint à un moment une forme d'égalité. C'est en étant plus nombreuses, et pour être plus nombreuses, il faut s'entraider.
Merci beaucoup Adrienne Charmet pour votre intervention. Nous accueillons maintenant Aude Bernheim. Aude Bernheim, vous êtes spécialiste en microbiologie et en génétique. Vous travaillez également sur les dangers des biais inhérents à l'intelligence artificielle et vous avez fondé l'association WAX Science pour promouvoir une science sans stéréotypes. J'aimerais vous demander tout d'abord comment est-ce que le scoutisme a influencé votre carrière.
Alors, on va dire beaucoup, beaucoup de manières selon moi. Et pour en choisir qu'une, le scoutisme, c'est l'apprentissage de la débrouillardise et c'est apprendre à savoir, on va dire, quoi faire ou imaginer des solutions quand on est jeune et qu'on ne sait pas trop quoi faire et comment les mettre en place, même si on n'a pas grand-chose autour de nous. Et pour moi, c'est une qualité que je trouve essentielle quand on fait de la recherche, parce qu'il y a aussi beaucoup de débrouillardise et essayer de savoir quoi faire avec ce qu'on a autour de nous. Donc, dans ma recherche en génétique, ça me sert beaucoup.
Vous avez co-créé l'association WAX, qui s'est donnée pour objectif de rendre les sciences attractives pour toutes et pour tous. Est-ce que le scoutisme vous a donné le goût de l'associatif ?
Alors, oui, clairement. Je ne sais pas si j'avais le goût de l'associatif et que du coup, le scoutisme a été une forme pour en faire. Mais en tout cas, ce que je dois dire, c'est que ça a été les premières expériences associatives avec le scoutisme et notamment aussi avec des projets ensuite de route ou à expérimenter là pour la première fois de gérer des budgets, aller chercher de l'argent pour essayer de faire des choses dans lesquelles on croit. Et ensuite, la première expérience d'être bénévole et d'encadrer et de gérer des bénévoles, tout ça pour moi c'était avec le scoutisme. Et c'est presque parce qu'au bout d'un moment que j'ai arrêté le scoutisme que j'ai dû trouver d'autres choses pour un peu remplir ce vide-là. Et du coup, depuis, on va dire que je suis un peu une addict de l'associatif et j'adore en faire. Voilà.
Comment est-ce que votre travail avec l'association WAX se nourrit de votre expérience de scoutisme ?
Alors, sur ce travail, on va dire que j'ai beaucoup appris justement quand j'ai dirigé un camp et pendant aussi toute une année, donc apprendre à faire marcher globalement une association où il y a des gens qui vont être très actifs, des bénévoles, qui c'était un peu les chefs au niveau du scoutisme et qui étaient d'autres personnes au niveau de l'association où j'étais la coprésidente, et ensuite des gens qui vont être là plus ponctuellement. Et donc, je pense que c'est... et dans la façon de la gestion, mais aussi de la motivation de toutes ces personnes-là, d'essayer d'inspirer les gens, parce qu'en final, personne n'est payé. Donc, moi, je dis, c'est la meilleure formation au management, arriver à motiver des gens pour faire des choses alors qu'on ne les paye pas. Si on y arrive, ça veut dire qu'on a vraiment réussi à toucher quelque chose de juste. Donc, je pense que là-dedans, il y a vraiment eu quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Et aussi, encore une fois, c'est le côté débrouillardise, savoir faire beaucoup avec pas grand-chose. Et ça, je pense que c'est essentiel dans les milieux associatifs parce qu'on n'a pas souvent des gros moyens. Mais en fait, quand on pousse les gens, quand on arrive à les convaincre, il y a plein de choses qu'on peut un peu obtenir, on va dire, en nature ou se faire prêter des choses ou quoi que ce soit. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose que j'avais pas mal en tête grâce au scoutisme.
Et j'aimerais vous demander également, quelle est la chose que vous avez accomplie qui vous rend la plus fière ?
Alors c'est rigolo parce que je me suis posé quelqu'un m'a posé cette question il n'y a pas si longtemps que ça et pendant des années et je pense que c'est encore le cas j'ai été chef de camp à 21 ans donc très jeune où j'ai dirigé un camp de louveteaux pour où il y avait 40 louveteaux et on était 7 responsables et alors faire ça à 21 ans maintenant, je me dis que j'oserais pas prendre cette responsabilité de gérer tout ça sur 3 ans. On a fait des choses fantastiques, de se dire qu'une troupe de personnes, dont la personne la plus âgée à 21 ans, peut complètement vivre en autonomie comme ça dans la forêt. Donc, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui me paraît complètement fou, et donc je suis très fière d'avoir réussi parce que tout s'est super bien passé et tout le monde en garde un super souvenir. Et donc, je pense que ça reste encore aujourd'hui une des choses dont je suis les plus fière.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur un message que vous voudriez faire passer aux jeunes filles qui vous écoutent, qui veulent faire de la science ou...
Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'un autre aspect du scoutisme qui me paraît assez essentiel, c'est qu'on a appris à faire des choses en tant que jeune fille, jeune femme, qui n'étaient pas du tout vues comme des choses de filles. Donc, à l'adolescence, on allait couper du bois, on faisait de la lutte, du sport, on portait des choses super lourdes. Et je pense que le fait de pouvoir apprendre à faire ce genre de choses et à se sentir très indépendante et être capable d'un peu tout faire soi-même quand il y a besoin, et deuxièmement, d'aller faire des choses qui vont à l'encontre des stéréotypes, dans un sens, c'est la même chose que ce qui se passe en science. Quand ça fait peur, on ne croit pas qu'on en est capable et toute la société nous dit que ce n'est pas pour nous. Mais quand on s'y frotte, on peut voir que, un, on en est capable et deux, c'est très, très marrant. Donc là aussi, je pense qu'il y a des parallèles assez intéressants.
Merci beaucoup, Aude Bernheim, pour votre disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Zoé, tu as 19 ans, tu es étudiante, féministe et engagée contre les violences sexuelles. Ça a notamment été le sujet de ta plaidoirie lors d'un concours lycéen et tu as aussi été scout. Tout d'abord, est-ce que je peux te demander quel était ton parcours scout ?
Oui, bien sûr. J'ai commencé le scoutisme aussi tôt que possible. J'ai commencé à 6 ans au Scout et Guide de France et j'ai continué jusqu'à mes 18 ans toujours dans le même mouvement et c'est récemment que je suis arrivée chez les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France en tant que responsable à Poitiers.
Comment est-ce que tu penses que le scoutisme a perfusé dans tes engagements que tu as aujourd'hui ?
D'abord, le scoutisme, c'est un espace où on se sent beaucoup plus safe et beaucoup plus à même en tant qu'individu pour prendre la parole, pour dire ce qu'on pense. Et je ne dirais pas non plus que c'est isolé de la société, mais c'est un terrain bien plus libéré pour prendre la parole et pour exprimer vraiment ce qu'on pense, pour discuter collectivement de sujets de société qui font polémique ou pas. Et donc, rien que apprendre à penser par moi-même et dire ce que je pense, ça a été presque fondamentalement grâce au scoutisme, au-delà de l'école.
Et est-ce que tu penses que dans ta vie courante aujourd'hui, dans tes études, tes engagements militants, tu utilises toujours des choses que tu as apprises dans le cadre du scoutisme ?
En tant que responsable, là, savoir expliquer des choses à des enfants de façon plus pédagogique, expérimenter des pédagogies et des rapports nouveaux aux êtres humains, c'est aussi quelque chose de fondamental dans le militantisme où la sensibilisation a un rôle fondamental. Et le scoutisme, c'est aussi un très bon exercice pour ça. Le scoutisme, c'est ça aussi, c'est apprendre à repenser les rapports humains et dans toute leur globalité. Mais le fait que le scoutisme, ce soit dans un cadre d'environnement extérieur et où on se confronte à la nature et où on vit avec et elle nous est utile et on comprend à quel point on en fait partie, c'est aussi fondamental dans la construction de l'individu. On comprend qu'on est des individus à égale valeur en tant que matière vivante. Au final, aujourd'hui, ça fait beaucoup sens avec tous les mouvements écologistes, d'écologie politique. Ma lutte féministe, de même, elle n'est pas isolée. Je suis également militante écologiste, mais au final, ça se croise et je me définirais plutôt comme écoféministe et mon parcours scout, il a totalement contribué à ça par le fait qu'on est éduqué dans la nature et donc on y est sensible. On a envie d'un mode de vie qui soit en harmonie avec le vivant.
Du coup, maintenant, comment est-ce que tu essayes de transmettre ça à tes jeunes ?
C'est plutôt une attitude, une façon de proposer, d'interpeller sur des sujets comme... C'est tout bête, hein. Juste le fait que les garçons, pendant les temps libres, ils vont facilement juste se lancer des bâtons et les filles écrire des lettres dans leur tente et faire en sorte d'interpeller sur ces sujets-là, pas inciter fondamentalement les filles à aller se lancer des bâtons dessus ou les garçons et écrire des lettres, mais proposer et susciter la réflexion sur le pourquoi est-ce que les filles font ça ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Et d'où vient cette différence ? Est-ce que c'est parce que vous aimez ça ? D'où est-ce que ça vient ? Et juste apprendre à se questionner sur toutes ces choses, finalement, c'est tout à fait éloquent sur ce que ça deviendra plus tard et sur ce qu'est la société aujourd'hui. Simplement interpeller sur ces questions-là, c'est déjà fondamental, je pense. Leur demander leur avis et leur apprendre à se questionner, juste à développer leur esprit critique, à se poser des questions, jamais penser en rond et toujours remettre en cause l'ordre établi.
C'est des choses que tu as envie de mettre en œuvre dans ta vie future, que ce soit professionnelle, militante ou...
Je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie en tant que... Enfin, je parle de métier ou de domaine d'activité, mais ce qui fait sens pour moi, c'est créer des nouvelles solidarités, apprendre aussi... Enfin, ce n'est pas une question d'apprentissage, mais continuer à faire des ordres. Quand je dis faire des ordres, c'est toujours remettre en cause ce qui ne fait plus question parce qu'au final, on doit toujours continuer à se poser des questions et à construire des choses nouvelles. Donc, je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais je sais ce que j'ai envie de susciter avec les autres. Et pour l'instant, là, être responsable au sein des scouts par l'animation, la pédagogie, c'est un super moyen de me questionner, de me construire aussi. Mais je me vois bien faire, je ne sais pas, 10 métiers différents dans ma vie.
Et qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre là au Louveteau ou aux Éclés ou aux Louvettes qui pourraient écouter cette émission ?
Ce que chacun et chacune peut penser a une légitimité. La colère aussi a une légitimité, d'autant plus par les temps qui courent. Faut pas censurer sa colère, continuer à être indigné, continuer à penser, se questionner, critiquer, même crier sa colère dans la rue si on en a envie, la rendre constructive, la rendre fertile, et à partir de ces sentiments, de cette indignation, les transformer en actes et ensuite agir collectivement. C'est fondamentalement politique, hein, le scoutisme est fondamentalement politique, et créer ensemble des projets, ça passe aussi par l'action politique collective. Et encore plus de kiffer et de profiter un maximum de leurs années en tant que jeune, même si pour moi c'est pas fini parce qu'aujourd'hui je suis responsable. Ça passe très très vite, c'est des moments inoubliables et dont il faut profiter à fond parce que ça construit à part entière les individus que vous serez plus tard. C'est des amis pour la vie, c'est des liens et des souvenirs qui vous quitteront jamais. Et profitez-en à fond.
Et merci beaucoup Zoé de Soir pour cette énergie que nous transmet et ce goût de l'engagement. Et on reste à Poitiers avec une interview de Léonore Beconduit, maire de Poitiers.
Sophie Sacquin-Morin, vous êtes l'une des femmes que nous voulions entendre dans cette émission. Vous êtes chercheuse et enseignante à l'université. En tant que femme engagée à plus d'un titre, engagée auprès des protéines, engagée auprès des femmes. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, première question, on voulait que vous nous disiez en quelques mots quel avait été votre parcours dans le scoutisme.
J'ai commencé le scoutisme au Louveteau. Et après, j'ai passé au cahier des écureuses, donc ça commence à dater un peu parce qu'à l'époque, on n'était pas encore mixte, avec que des filles, une année d'aînée, et ensuite, il y a eu encore eu 4 années en tant que responsable.
Vous pouvez nous dire comment, effectivement, toutes ces années de scoutisme a imprégné votre vie, imprégné vos choix de vie et les enseignements que vous en avez gardés?
Alors, moi, ce que j'ai gardé finalement du scoutisme, c'est l'impression qu'on a vraiment une capacité de réaliser des choses, pratiquement d'organiser des choses, qui est nettement supérieure à ce qu'on s'imagine a priori. C'est-à-dire même découvrir, par exemple, les premières années, les premiers camps, quand on commence à faire des installs, c'est quand même assez passionnant parce qu'on va se retrouver, on va abattre des arbres, on va les débiter en morceaux et on va creuser des méplats et monter des meubles. Enfin, c'est quand même une réalisation pratique qui semble comme ça. Quand on n'y est pas, ça peut sembler comme ça assez inaccessible. Et en fait, bah voilà, ça s'apprend, ça se fait. Enfin, c'était assez passionnant finalement, ça, ce côté, cette acquisition de compétences pratiques. Et après, quand on devient soi-même responsable et qu'on commence à organiser des choses, à 22-23 ans, on va être capable d'aller trouver un local, de préparer les jeux. Enfin, le travail d'animation est quand même assez considérable. Hein. 3 semaines de folklore avec les jeux à préparer, c'est pas mal. Faire les menus, faire les réalisations pratiques, pareil, anticiper expo. Enfin, on développe des capacités en termes de logistique et d'organisation qui sont quand même assez fascinantes. Et finalement, ça sert plus tard. C'est-à-dire que, bon, moi, je bricole pas. Je suis une chercheuse, je fais de la théorie, mais j'organise des congrès. Et organiser un congrès, bah, c'est avoir une liste d'invités, trouver un local, réserver un hôtel, réserver un amphi, s'assurer que les billets de train ont été pris, des choses comme ça. Enfin, finalement, voilà, réaliser un congrès, ça mobilise le même type de compétences que d'organiser un camp scout. Hein.
Dans votre parcours, effectivement, vous êtes engagée pour la place des femmes, la place des femmes dans les sciences. D'où vient cet engagement et cette volonté de défendre la place des femmes?
Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir été très poussée vers des études scientifiques, alors que c'était pas un parcours standard pour une fille. C'est-à-dire que j'ai quand même eu quelques remarques quand j'étais au lycée, comme quoi c'était pas vraiment normal que je me destine à faire une prépa, même de la part de camarades de classe. Hein. C'est très rare qu'on ait des collègues masculins qui vont vous dire face à face, oh oui, non, là, t'as pas ta place ici. Mais c'est par micro, par petits événements et tout, quand on discute avec les collègues, on se dit, tiens, bah alors tel collègue masculin, il est invité à faire tel truc, mais pas tel collègue féminine. Enfin, c'est des tout petits trucs. Et puis après, c'est l'accumulation de ces toutes petites différences de traitement qui fait des différences de carrière notables. Comme c'est des tout petits morceaux, ça prend du temps. On prend du temps pour se rendre compte. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait ma thèse, j'ai été recrutée au CNRS, mais je me posais pas tellement ce genre de questions. Et puis, c'est à l'usage. Et puis, on discute avec les collègues et tout. On voit, on se dit, ah oui, quand même, on n'est pas forcément sur un pied d'égalité. Pour moi, c'est ça le plus gros apport du scoutisme. C'est l'idée que, oui, on peut essayer de faire des trucs, quoi. Et ça vaut le coup d'essayer, et il faut pas être paralysé par quelque chose qui serait nouveau. Souvent, donc, on a des rôles, soit en tant que responsable, ou même au sein des équipes, l'infirmerie, l'intendance, le matériel et tout. Et on a un peu tendance à se figer dans un rôle. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'on a fait l'infirmerie d'année, l'année d'après, on dit, ah ben, je refais l'infirmerie sur le camp parce que c'est confortable, c'est mon champ de compétences. En fait, il faut bien voir qu'au niveau d'un construct, hein, on ne demande pas des niveaux d'expertise monstrueux. Faire l'infirmerie, ça ne demande pas d'avoir fait médecine. Donc, ça veut dire que tout le monde peut faire l'infirmerie. Et pareil, si on décide de le faire, tout le monde peut décider à son tour de faire l'intendance ou le matériel. Et donc, finalement, je pense que le meilleur moyen pour aussi pousser à mixité, c'est de se dire, bah, tout le monde doit être compétent dans tous les domaines et pas, doit pas se laisser enfermer dans un champ de compétences.
Alors, ma dernière question, c'était, que peuvent les femmes pour les femmes?
Quand je vais à des congrès à l'extérieur, quand je fais des conférences, bah, je note les intervenantes. Et ces intervenantes-là, bah, c'est des chercheuses que je vais soit réinviter moi si j'organise un congrès, voire même inviter à faire un séminaire au laboratoire, enfin, pour m'assurer que quand j'organise des choses, il y aura toujours autant de chercheuses que de chercheurs, quoi. Finalement, il y a un travail en réseau, quoi. Si on est passif et qu'on se contente de prendre les noms qui arrivent, enfin, moi, je regarde maintenant systématiquement, je pars en congrès, la première chose que je fais, c'est je compte le nombre de femmes sur la proportion de femmes dans les intervenants. Non, puis on joue. Alors, il y a un exemple très concret qu'on a fait il y a quelques années. Je sais pas si j'ai essayé de travailler. Enfin, je m'occupe d'un groupement de laboratoires. On a des fonds chaque année et on distribue des fonds pour que les collègues organisent des congrès dans notre communauté scientifique, qui est la chimie théorique. Donc, tous les ans, on recevait le programme, les gens nous envoyaient leurs projets de congrès, et on disait si on subventionnait ou pas. Et quand on envoie un projet de congrès, on envoie une liste de chercheurs invités, qui peut être 10 noms maximum, et parfois, j'avais 10 noms masculins. Et à un moment, je suis arrivée, j'ai pris la direction de cette fédération-là, et j'ai dit, bon, bah, moi, c'est très simple, à partir de maintenant, ce qu'on appelle les MANEL, c'est-à-dire des projets de congrès avec que des noms masculins sur les invités, on les finance pas, c'est même pas la peine d'envoyer le dossier, on vous filera plus de sous. Parce que vous allez pas me dire que, alors il y a des oui, mais la communauté est très particulière, dans le cas c'est très difficile, je sais, mais des gens, vous devez donner 10 noms sur une communauté scientifique à l'échelle de la planète, hein, on est sur Internet. Si vous me dites qu'il n'y a pas une seule femme dans votre communauté scientifique susceptible, à l'échelle de la planète, susceptible d'être interviewée, c'est que votre communauté scientifique va très mal, en fait. Faut vous poser des questions sur comment vous fonctionnez. Et donc, en fait, les gens ont râlé la première année, et puis à partir de l'année suivante, ça passe crème. Hein, donc, mais oui, il faut être proactif. Hein, ça, c'est le côté, ah oui, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Non, on peut bouger. Hein.
Il faut être volontariste.
Voilà, donc là, on s'organise, hein, puis voilà. On... Ouais.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage.
Notre prochaine invitée est scout depuis ses 11 ans. Dans son parcours politique, elle a d'abord été porte-parole du groupe écologiste et citoyen au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, avant de se lancer dans l'aventure de Poitiers Collectif, qui l'a conduit en juin dernier à remporter les municipales pour devenir, à 30 ans, la première femme maire de la ville de Poitiers. Vous l'avez reconnu, j'espère, il s'agit de Léonore Monconduit. Bonsoir Léonore et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir et merci pour votre invitation.
Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours chez les scouts et nous expliquer en quoi il a été formateur pour la maire engagée que vous êtes aujourd'hui ?
Alors, je suis membre des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, qui est donc l'un des mouvements du scoutisme français, mouvement dans lequel je suis entrée à 11 ans en tant que louvette, via du bouche à oreille, donc j'étais pas du tout issue d'une famille scout. Et donc, depuis l'âge de 11 ans, je n'ai jamais quitté le mouvement, sauf pour rejoindre aujourd'hui mes nouvelles fonctions. Donc, j'ai été louvette, éclaireuse, aînée, responsable de louveteau pendant très longtemps, responsable d'aînée aussi, que j'ai accompagnée notamment dans des projets internationaux, jusqu'à être à la fin administratrice du mouvement, où je représentais la région Far West. Les valeurs qui me restent le plus sont celles d'une pédagogie qui était vraiment fondée d'une part sur le fonctionnement collectif, vraiment très jeune, l'apprentissage du fonctionnement en équipe, les différents rôles qu'on donnait aux uns aux autres, une pédagogie vraiment fondée sur la confiance. Même très jeune, on nous fait confiance, on ne nous demande pas de faire nos preuves a priori, mais on nous fait confiance pour tester, pour expérimenter, pour prendre des responsabilités. Et c'est une grande bienveillance dans le parcours qui m'a accompagnée vraiment toute ma vie scout. Et puis, la vie dans la nature aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est une approche très sensible de la vie dans la nature qui me nourrit vraiment encore aujourd'hui.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, votre nouvelle fonction est le résultat d'un processus innovant et transparent d'élections horizontales orchestrées par votre liste Poitiers Collectif. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est né Poitiers Collectif et pourquoi ce procédé nouveau d'élection était important pour vous ?
Oui, alors Poitiers Collectif, c'est une démarche citoyenne qu'on a lancée à Poitiers 2 ans avant les élections municipales avec l'envie de reprendre la main sur le fonctionnement de la politique locale parce qu'on avait le sentiment qu'aujourd'hui, la politique n'était pas représentative de ce qu'on était, nous, des citoyens plus ou moins engagés, mais avec des envies d'engagement politique pour lesquelles les formes de politique actuelles ne nous convenaient pas et qui nous semblait exclure beaucoup de personnes. Donc, on a eu envie de faire les choses par nous-mêmes et de faire les choses dans ce qu'on considérait être le bon ordre. Donc, d'abord, le projet avant les têtes et les têtes, donc l'équipe avant la tête. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est donné une méthode vraiment issue de l'éducation populaire qui a permis de faire ça en 2 ans, en construisant d'abord un programme de manière complètement ouverte, participative, avec des groupes de travail ouverts à toutes et à tous, en allant à la rencontre des associations, des entreprises. Donc un programme qui a été à chaque fois validé par des plénières publiques qu'on tenait tous les 15 jours. Donc toutes les décisions stratégiques du projet se prenaient en plénière publique ouverte à toutes et à tous et parfois même en live sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a désigné l'équipe, donc les 20 premiers candidats via une méthode encore une fois ouverte, c'est-à-dire que chacune était invité à proposer des personnes qui lui semblaient représentatives de la démarche citoyenne, de l'état d'esprit de Poitiers. Donc, on avait 20 candidats qui ensuite ont désigné via une élection sans candidat leur tête de liste et il s'est trouvé que c'est moi qui ai été choisie. Et voilà, donc c'est ce qui nous a permis de remporter la mairie de Poitiers avec une liste très jeune, moins de 40 ans de moyenne d'âge, et une liste très citoyenne puisque plus de 50% des candidats n'étaient adhérents à aucun parti et on ne refusait pas pour autant les partis puisque nous étions soutenus par 6 organisations politiques dont Europe Écologie Les Verts, Génération S, le Parti communiste français. Mais ce qui comptait vraiment dans la démarche, c'est qu'on venait en tant que citoyen, en tant qu'habitant de Poitiers, et qu'on posait un peu sa casquette militante à l'entrée, et on était tous égaux, en fait, face à l'exercice de la politique, pour s'intéresser aux personnes, aux citoyens, avant de s'intéresser aux étiquettes.
Et alors, justement, vous avez parlé d'éducation populaire, on entend que dans vos discours, c'est vraiment le terme qui vous semble tenir le plus à cœur. Est-ce que ce terme-là a un lien avec le scoutisme, comme ce procédé plus collectif d'élection?
Oui, complètement. Alors, dans le groupe qui pilotait la démarche Poitiers Collectif, j'étais pas la seule à être issue d'un mouvement d'éducation populaire, donc j'étais la seule à être issue du scoutisme, mais on avait beaucoup de fédérations qui étaient représentées, parce qu'il y a on entend beaucoup de responsables politiques ou même associatifs dire « il faut faire collectif, il faut faire de la concertation ». Et souvent, derrière, ils n'ont pas les outils pour savoir comment faire. Et nous, on avait la chance, et notamment moi, de par mon parcours scout mais ensuite de formatrice BAFA, par exemple, c'est vraiment des outils que j'avais appris à maîtriser et dont j'ai pu me servir dans le cadre de la démarche Poitiers Collectif pour animer des réunions collectives, avoir des processus de décision participatifs. Et puis, c'est aussi un état d'esprit particulier et qui, aujourd'hui, moi, ne me lâche pas. C'est-à-dire que pendant tout mon parcours scout, ma progression, elle a été due au soutien du groupe. Au fait que, comme je l'ai dit, on me faisait confiance pour prendre des responsabilités. Je n'ai jamais eu à dire « je veux que ce soit moi ». J'ai toujours été portée par le groupe ou portée par l'un de mes responsables qui me disait « vas-y, on te fait confiance ». Et là encore, le fait que ce soit le groupe, enfin une assemblée publique qui désigne les premiers candidats et les candidats qui choisissent ensuite quelle était la tête de liste qui était la plus légitime pour incarner la démarche, ça change tout, en fait. Ça donne une légitimité importante à la tête de liste, un peu au pilote de l'équipe. Ça lui donne une redevabilité vis-à-vis du groupe. C'est-à-dire que c'est pas pour soi qu'on s'engage, c'est pour porter la parole du groupe, on est porté par la légitimité d'un groupe et ça change tout par rapport à une démarche politique classique où quelqu'un se déclare candidat en disant je porte la bonne parole, je suis le sauveur. Enfin, voilà, c'est vraiment une démarche bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire dont la légitimité vient des gens, du groupe, dont il me tenait vraiment à cœur qu'elle se reflète dans notre manière de faire de la politique.
Très bien, merci. Vous êtes jeune, vous êtes écolo, vous êtes une ancienne scout, mais vous êtes aussi une femme. Est-ce que, justement, vous auriez un conseil à donner aux jeunes femmes qui auraient envie de se lancer en politique, par exemple ?
Oui, alors je mets souvent sur le même plan les difficultés qu'on peut connaître en tant que femme et en tant que jeune. Et c'est-à-dire que pendant toute la campagne, et même en fait j'ai été élue avant, j'étais la plus jeune conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine avant d'être maire de Poitiers. Et on est, comment dire, on est soumis à une forte présomption d'incompétence, de manque d'expérience, de manque de maturité sur la politique en général, sur les projets, sur les décisions à prendre. Et j'ai le sentiment qu'on a beaucoup plus à faire nos preuves que d'autres candidats, que ce soit des hommes plus âgés, plus expérimentés, qui rentrent plus dans les codes conventionnels de la politique. Et du coup, le conseil que je voudrais donner, enfin que je donnerai en tout cas et que je donne, parce que ça me tient à cœur de diffuser aussi cette expérience qui est la mienne, c'est de oser se lancer en fait. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a une énorme autocensure de la part des jeunes et des femmes pour se lancer en politique lorsqu'on essaye d'associer des gens à ces démarches-là. Les femmes se mettent beaucoup plus de barrières que les hommes. Elles demandent beaucoup plus, est-ce qu'elles sont capables, est-ce qu'elles auront le temps, est-ce qu'elles pourront concilier la vie familiale, la vie professionnelle. Les hommes ne se posent pas cette question, ou se la posent beaucoup moins en tout cas, et les personnes plus âgées se la posent aussi moins. Donc il faut oser, être conscient que les principales barrières, c'est celles qu'on se met soi-même. Vous représentez aussi ce que la société attend aujourd'hui, donc allez-y, faites-vous confiance, vous êtes capable.
De quoi êtes-vous la plus fière actuellement ?
Vraiment, je crois. Enfin, ce dont je suis la plus fière, c'est cette victoire de Poitiers Collectif, parce que, enfin, c'est pas tant la victoire que le processus qu'on a réussi à conduire pendant 2 ans avec une persévérance collective qui n'est pas si fréquente. On a souvent plein d'envie d'engagement, et puis pour tenir sur la durée, c'est difficile. Donc, je suis vraiment très très fière de cette réussite de Poitiers Collectif et du fait qu'on ait réussi à tenir bon sur nos valeurs, à tenir bon sur notre fonctionnement collectif, transparent, ouvert pendant toute la campagne. Et d'avoir démontré par la preuve qu'on peut faire de la politique autrement. Il y a plein de gens qui n'y croyaient pas et à qui ça a redonné confiance aussi sur le fait de pouvoir que s'engager, on pouvait changer les choses en s'engageant. Et on se rend compte qu'on a porté un message d'espoir, et ça, j'en suis assez fière.
Merci à nos invités EES pour le partage de leur expérience de vie. La place des femmes dans notre histoire nous concerne toutes et tous, évidemment. Ça se discute, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter le podcast sur le site des EEDF et rendez-vous sur astralepluriel.fr si vous voulez vous aussi contribuer en racontant des témoignages de la vie de vos aïeuls ou trouver des ressources pour organiser des activités pour le centenaire. Merci à Catherine et Julie, et on se retrouve le lundi 28 décembre pour une nouvelle émission. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Fréquences Protestantes.